Voyage Cast 69, en vélo autour du monde avec Pascal. Bonjour et bienvenue sur ce Voyage Cast un peu tardif. Bah oui, vous savez, normalement, Voyage Cast, ça sort toujours très précisément le mercredi matin à 8h50, heure suisse, bien entendu. Mais voilà, là, je suis au Canada, je suis encore en voyage jusqu'à demain, c'est la fin. Et puis, j'étais à Tadoussac, et puis c'était tellement cool, il y avait tellement de gens avec qui parler que finalement, j'ai pas réussi à faire le montage de Voyage Cast. Donc je le fais maintenant sur Montréal. Et il est fini, donc désolé pour ces 2 jours de retard, je crois que ça fera chez vous quand ce podcast sortira. Mais bon, vous m'en voudrez pas, ça fait 2 mois que je suis en voyage, et puis ça fait 2 mois qu'il n'y a pas vraiment de retard sur VoyageCast. Dans cet épisode, qui a donc été enregistré bien avant mon voyage de 2 mois à travers les États-Unis et le Canada, j'ai reçu Pascal, qui est un compatriote suisse, qui est actuellement en voyage autour du monde. Alors à l'époque, il était en Australie, quand on a enregistré, et puis on a discuté de son voyage autour du monde à vélo. Il a déjà parcouru une bonne partie de l'Europe et de l'Asie, il a été en Chine, etc. C'était vraiment très chouette de le recevoir pour parler un peu de tout ça, comment il s'organise, quelles petites anecdotes il a, quelques petits conseils il a pour ceux que l'aventure tenterait. On avait déjà reçu Laurent Houssin, on en parle d'ailleurs déjà pas mal dans le podcast. Laurent Houssin, vous vous souvenez, c'est le gars qui était venu nous parler en premier de la Syrie, comment c'était avant la guerre, parce qu'il avait eu l'occasion d'y aller. Et puis on avait aussi fait un petit interview à Bâle quand il était passé, puisqu'il était entre la France et puis le Japon, puis il passait par la Suisse. Et puis depuis qu'on a enregistré le podcast, il est effectivement arrivé au Japon et il doit être sur le retour actuellement vers la France. Je suis très triste pour lui parce que c'est toujours très très triste et très très dur de venir de voyage. Vous le savez très bien puisque vous êtes pour la grande majorité des voyageurs, mais je suis très content parce que ça me donnera une bonne occasion de le voir. C'est un peu plus proche que d'aller le voir au Japon. Bref, un podcast où on parle de vélo et de petites histoires autour du monde. Bienvenue sur VoyageCast. Hey, avant de lancer l'interview, vous savez, c'est terrible. Hein. Pour vous dire, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop le système de Patreon. Demander de l'argent pour un truc gratuit, les gens ils donnent pas, ils s'en foutent. Puis moi j'ai pas envie de donner de l'argent parce que t'en as pas besoin. Blablabla. Ok, je m'en fiche. Moi, c'est libre, vous donner de l'argent si vous avez envie ou pas. Mais pour vous dire au quel point c'est pas si important que ça comparé au contenu que je fabrique, ça fait en tout cas 2-3 podcasts, c'est-à-dire plus d'un mois et quelques que j'ai dit aucun mot de Patreon sur VoyageCast. Puis alors bon, déjà ça aide pas vraiment au truc qui marche, puis en plus vraiment j'ai oublié de remercier publiquement tous ceux qui donnent de l'argent pour VoyageCast. On est à peu près à... Et VoyageCast et EntrePodcast, hein, bien sûr, parce que l'argent est plutôt dépensé sur EntrePodcast, parce que c'est un podcast qui coûte un petit peu plus cher à produire que VoyageCast, parce que je me déplace vraiment et qu'on doit acheter des livres, et puis qu'on doit s'abonner à des trucs pour avoir un petit peu des infos, pour pouvoir faire un podcast de qualité. Donc c'est important d'avoir cet argent. On a un peu plus d'une centaine de dollars, ce qui est vraiment bien parce que ça couvre bien sûr tous les aspects serveur, nom de domaine, etc. Très largement chaque mois. Puis ça nous permet de mettre un petit peu d'argent de côté justement pour ces petits voyages et pour une éventuelle rencontre dès que je rentre en Suisse. On va se mettre là-dessus avec Anne-Laure avant qu'elle parte au Brésil pour essayer de faire une rencontre. Est-ce que ce sera sur Paris? Est-ce que ce sera sur Lyon? Est-ce que ce sera sur Nice? On n'en sait rien. De toute façon, ce sera communiqué sur VoyageCast. Accessoirement, je pense que pour vous, auditeurs de VoyageCast, qui vous intéressez pas spécialement à l'anthropologie peut-être, ça peut quand même être intéressant de venir. Déjà parce qu'on peut se rencontrer, on peut prendre une bière ensemble, puis qu'on essaiera de faire une discussion justement qui lie toujours un petit peu voyage, un petit peu anthropologie, problème actuel, tourisme. On va essayer de faire un petit débat sympa, justement, probablement dans une de ces 3 villes, parce qu'elles ont l'avantage d'être assez grandes, d'être très bien desservies au niveau TGV, avion, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant là-bas. Restez à l'écoute de VoyageCast et d'EntrePodcast pour en savoir plus. Vous êtes un peu plus d'une vingtaine à participer financièrement à VoyageCast et EntrePodcast. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je vous remercie du fond du cœur. On vous remercie du fond du cœur d'ailleurs, puisqu'Anne-Laure le ferait aussi certainement si elle était à mes côtés à Montréal. Et vraiment à tous ceux qui donnent un petit peu d'argent pour VoyageCast et EntrePodcast, un grand merci à vous, ça nous aide réellement, ça va nous aider. Et puis je trouve ça vraiment beau que quelque chose qui est gratuit, qu'on peut consommer vraiment comme on veut gratuitement, ben il y a des gens qui sont capables de donner un petit peu d'argent. Moi, j'aime bien donner de l'argent pour des projets que j'aime bien. Puis je trouve ça cool qu'il y a des gens qui trouvent Voyagecast et Anthropodcast assez intéressants pour qu'ils se sentent capables de donner un petit peu d'argent chaque mois. Vraiment, encore une fois, merci. Et maintenant, place à l'interview.
Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan?
J'ai ma chaîne qui a sauté.
Oh là là, donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes en potier, hein.
Vas-y donc, hey, pour aller plus vite, oui. Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein. Alors, allez.
Mais dites donc, ça fait deux fois que vous faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Eh ben alors, c'est normal, non?
Pardon, excusez-moi. Mais au fond, pourquoi c'est normal?
Et c'est normal parce que...
Oui, parce que je suis un manuel, sans doute.
Eh ben parfaitement, voilà.
Ah, très bien.
Mais vous savez, c'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute.
Ne croyez pas que ça va durer, hein, parce que j'en ai marre de voyager avec un mec comme vous. Je fous le camp. J'en ai marre.
Ouais. Vous me laissez tomber, hein. Vous cherchez un prétexte et vous l'avez trouvé. Égoïste.
Bonjour et bienvenue sur Voyagecast, ici Jonathan, et aujourd'hui je suis accompagné de Pascal. Salut Pascal.
Salut Jonathan.
Alors dis donc, je me demande, quand je reçois tes mails, je veux remarquer que tu es à Lucent et c'est à quelques kilomètres de chez moi. C'est incroyable, on est tout près. Pourquoi on s'est pas vu pour boire une bière, enregistrer le podcast ensemble, face à face?
Ben écoute, tes podcasts, je les ai découverts que très récemment en fait. Je les ai découverts il y a de là ça, 3 mois en arrière. J'étais au milieu de l'Outback en Australie, à Alice Springs. Et j'ai toujours entendu parler de ce nom de podcast sans m'intéresser vraiment. Je suis un peu old school, pour tout dire. Et du coup, je me suis intéressé, j'ai regardé, j'ai cliqué podcast sur iTunes, podcast de voyage. J'ai commencé à télécharger, j'ai vu tes émissions. J'ai pas tout regardé, mais j'ai téléchargé les émissions qui m'intéressaient. C'est plutôt cool de t'écouter sous ma tente.
Sous ta tente, donc j'en déduis que tu n'es pas à Lucent, et heureusement parce qu'aujourd'hui il pleut, il fait froid, donc à mon avis t'es mieux là où t'es, donc où tu es Pascal?
Actuellement je suis à Melbourne, j'ai fait 4 jours de stop, je rentre de Tasmanie, de 3 semaines de Tasmanie en fait, voilà.
D'accord, ouais, donc ça s'explique pourquoi on peut pas se boire une bière ce soir, hein, mais c'est partie remise pour quand tu reviendras. D'ailleurs, bon, ça va pas forcément résumer tout ton voyage parce que t'es parti depuis combien de temps déjà?
J'ai fêté mes 2 ans il y a une semaine en arrière.
Ah ouais, quand même, hein. Donc t'es parti, ben, de Suisse, je suppose. T'es en Australie, donc, t'as passé dans pas mal de pays parce que tu déplaces beaucoup à vélo, si j'ai compris.
Ouais, alors, ce qu'il faut dire peut-être au début, c'est vrai que j'ai entamé, il y a 2 ans en arrière, un tour du monde à vélo. Donc je suis parti de Suisse en passant, c'était en novembre, donc j'ai été chercher le chaud dans le sud de l'Europe et après traverser l'Asie centrale jusqu'à Pékin sur un peu la route de la soie et la suite le Japon, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie et pour arriver à Darwin en Australie. Et là maintenant j'ai traversé toute l'Australie nord au sud, la Tasmanie, je suis à Melbourne actuellement. Et je vais finir en Australie, à Brisbane, avant de partir en Nouvelle-Zélande en début de l'année prochaine.
Ok, donc Nouvelle-Zélande, et puis après, alors il y a une carte, hein, j'essaierai de la mettre sur Voyagecast, on voit un petit peu quels sont tes projets. Donc après, tu vas passer en Alaska, après la Nouvelle-Zélande, ensuite Canada, États-Unis, Mexique, et puis ensuite l'Amérique du Sud, et ensuite l'Afrique, si j'ai compris. Ouais, t'as encore un bout, hein, là, t'es quoi, t'es à la moitié à peu près?
Je pense pas que je peux dire que je suis à la moitié, je suis peut-être
pas
à un tiers.
Pas sûr encore, hein, non? Ouais.
Ouais, ouais. C'est bon, tout le reste reste assez flou encore. Je vais au fur et à mesure que j'avance. Je dois aussi, peut-être un inconvénient du voyage à vélo, c'est aussi de gérer avec les saisons. On est plus tributaire des saisons, du temps qu'il fait, que peut-être un voyage sac à dos, où on peut être en bus ou en voiture ou je ne sais quoi. Donc là, je vais en fait en Nouvelle-Zélande, ça sera l'été, en fait, dans l'hémisphère sud, pour passer en fait l'hiver à l'hémisphère nord, pour arriver en Alaska fin avril, début mai, pour avoir une meilleure saison pour commencer à faire du vélo.
Parce que j'imagine que l'Alaska en vélo en décembre, peut-être pas le meilleur timing.
Ben, c'est pas très conseillé. En fait, c'est sûr, c'est sûr. bien que je viens de Suisse, que je suis habitué au froid, mais faut pas déconner non plus.
On a nos limites. Ouais, c'est assez marrant parce que quand je vois ton trajet jusqu'en Chine, alors on enregistre en novembre, hein, donc des fois je vais peut-être confondre, ce sera pas la même chose en janvier si vous écoutez, hein, mais je sais pas si tu connais Laurent Houssin du podcast. il est passé dans Voyagecast, mais il a un blog qui s'appelle Asia Trek. Il a un vélo à voile. Et il est parti. Alors lui, il est parti l'année passée. Je crois que c'était aussi en octobre ou quelque chose comme ça. Il est parti de France. Son but, c'est d'aller au Japon. Donc en fait, il a fait en partie un petit peu le même chemin que toi. Je sais qu'il est aussi passé par le Kazakhstan, par l'Iran. Il était en Chine. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vraiment de nouvelles de lui par Facebook, etc. Parce que bon, c'est la Chine. Mais c'est-à-dire à la mi-novembre à peu près, il est sorti de la Chine maintenant. Et un joli trajet aussi. Alors lui, il est en vélo couché par contre.
Ok. Écoute, j'ai rencontré plein de voyageurs à vélo avec différents matériels, des gens tandem, des gens vélo couché, des gens tandem vélo couché en position normale. Mais non, je l'ai pas rencontré lui, et puis je ne connais pas alors son site internet, son site de voyage.
Ouais, non, je sais qu'il écoute Voyagecast, donc un gros bisou à toi, Laurent. Okay. Je sais pas où tu seras en janvier, hein. Tu seras, je sais pas, est-ce que tu seras déjà au Japon? Je sais pas. On s'y intéressera en janvier. Mais en tout cas, c'est cool, tous ces gens qui traversent. Je trouve toujours ça incroyable quand même, tous ces gens qui traversent des grandes étendues comme ça en vélo. Enfin, c'est assez incroyable comme voyage quand même. Et toi, tu dors quand même beaucoup en tente. Hein. On a discuté un petit peu en off.
Ouais, ben le problème du voyage à vélo, c'est que souvent, par rapport à un voyageur sac à dos et tout, qui va prendre un bus d'aller d'une ville en ville ou d'un site touristique à un autre site touristique, nous, pendant ce temps-là, on est peut-être, pour arriver à l'autre site, ils vont défendre. On est jusqu'à 8 jours sur la route. Et 8 jours sur la route, il n'y a pas forcément des endroits pour dormir dans tous les villages et tout. Donc, c'est vrai qu'il faut planter sa tente. Mais ben, dans toute cette Asie centrale, dans toute l'Asie en général, et peut même dire un peu partout, on est souvent hébergé aussi chez les gens, chez les locaux. Mais on est rarement guest house, ouais. Ça c'est sûr.
Alors, ben, du coup, c'est cool qu'on parle ensemble de tout ça et tu vas pouvoir nous raconter un petit peu quelques histoires parce qu'on le dit souvent sur Voyagecast, hein, mais un truc cool dans les voyages, c'est quand même les rencontres qu'on fait. C'est quand même hyper important, hein. C'est ce qui donne un petit peu de saveur au voyage. Et donc on va passer alors dans plusieurs pays. Alors une des premières rencontres que tu voulais nous rencontrer, si j'ai compris, c'est entre la Géorgie et le Kyrgyzstan.
Ouais, c'est un truc de fou en fait. Comme je voyage à long cours et je pouvais pas faire tous mes visas en partant de Suisse, parce que ça aurait été échu d'ici que j'arrive dans chaque pays. On doit se débrouiller pour faire des visas sur place, sur les ambassades du pays d'avant et tout et tout. Et quand je suis arrivé à l'ambassade de Géorgie pour faire mon visa Azerbaïdjan, Azeri, je suis rencontré sur un couple de Français qui appliquait aussi un visa pour l'Azerbaïdjan. Bon, on s'est juste croisés comme ça. Ça prenait 3 jours. On a été rechercher notre visa après. On s'est recroisés en même temps là. On a bu une bière, discuté un peu de ce qu'on faisait et tout. Donc, ils étaient sur la route de la soie. Un peu comme moi, mais bon, eux, ils étaient sac à dos. Donc, apparemment plus rapide que moi à vélo. Et on s'est dit au revoir et tout. On s'est dit peut-être qu'on se recroisera en Azerbaïdjan parce qu'on planifiait de prendre le ferry pour traverser la mer Caspienne ensemble. Et c'est un ferry assez saute d'humeur qu'on ne sait pas quand il part exactement, donc suivant comment on peut l'attendre assez longtemps. Donc du coup, quand je suis arrivé en Géorgie, la capitale de qui s'appelle Tbilissi.
Ouais, alors j'aurais pas pu t'aider sur ce coup.
ouais, non, mais moi, avant d'aller non plus, je connaissais pas tous ces noms. Donc j'ai été faire à l'ambassade Kazakhstan pour appliquer mon visa, que c'était un endroit un des plus faciles pour faire par rapport à l'Azerbaïdjan. Et du coup, quand je suis arrivé à l'ambassade, qui c'est qui sortait de l'ambassade? Les deux Français. Et du coup, on a bien ri et tout, j'ai appliqué mon visa, et bien sûr qu'on devait attendre en même temps, on avait le même temps d'attente, en fait, pour récupérer notre passeport et notre visa, donc tu sais, je crois que c'était 5 jours. Donc on se voyait tous les soirs faire l'apéro à Tbilissi. Et après, on s'est dit vraiment, bon, ça sera sûrement Bakou, on va sûrement se revoir là. Donc, je suis arrivé à Bakou un peu avant eux et j'étais à l'ambassade ouzbek. Et c'est moi, cette fois, quand je ressortais de l'ambassade ouzbek, c'est eux qui arrivaient. Il y avait rien de planifié, donc hein, c'était un truc super rigolo. Et du coup, on rattendait en même temps notre visa et on attendait ensemble aussi pour le bateau. Donc, on a pris le ferry ensemble et on arrive au Kazakhstan. Là, on s'est dit vraiment, là, cette fois, c'est fini. Parce qu'ils partaient sur le nord du Kazakhstan. Moi, j'allais pour rejoindre l'Ouzbékistan. Un mois et demi après, j'arrive près de la capitale de l'Ouzbékistan qui s'appelle Tashkent. Et je reçois un message d'eux qui disait, on est à Tashkent où tu es, si jamais on t'attend, si t'es pas trop loin pour passer encore une nuit ensemble et tout. Et du coup, j'étais à 3 jours de Tashkent, donc il m'a attendu 3 jours. On a fait un super repas tous ensemble et tout. C'était super sympa. Et pour... on s'est dit, ben, cette fois, c'est vraiment fini, fini. Et non, on s'est encore revu au Kyrgyzstan, en attendant notre visa chinois et tout. Là, on était trekkés une semaine. J'ai laissé mon vélo. On était trekkés dans la montagne une semaine ensemble. Voilà. Et après, ben, on est partis les deux sur la Chine. Mais bon, alors là, c'était différent. Là, on s'est pas revus. Mais depuis, ça, on sait qu'on garde contact au moins une fois par mois. Et c'est devenu vraiment des amis. Donc, c'est une jolie anecdote.
Ouais, c'est excellent quand tu rencontres des gens comme ça, vraiment par hasard, c'est assez incroyable, hein. Et au niveau du timing, c'est chaud quand même, on dirait presque que tu faisais Amazing Race, hein.
C'est Mathieu et Julie, juste les salue au passage si ils écoutent le podcast une fois.
Alors écoute, s'ils écoutent, on les salue aussi, mais ils auront certainement plein de choses à raconter aussi. Ils étaient en tour du monde aussi, un truc comme ça.
Non, ils étaient juste sur la route de la soie pour 6 mois.
Juste sur la route
ils
de la soie, c'est quand même.
Ouais,
pour
pardon.
Toi, on sait que c'est pas grand chose, mais pour nous, humbles mortels, dans nos appartements, c'est beaucoup.
Ouais, ils ont fait un gros sacrifice. Ils sont partis, ils ont tout laissé derrière eux, puis ils sont partis 6 mois pour faire leur trip, ouais, qu'ils ont super apprécié.
Ah ouais, tu m'étonnes, hein. La Chine et tout ça, c'était. Alors, c'est peut-être une question un peu débile, mais moi, quand j'ai été en Chine, il me semblait qu'on devait vraiment. Je sais pas, il y avait un truc pour avoir le visa, il faut te dire dans quel hôtel tu vas aller. Enfin, c'était un peu compliqué, il me semblait. Toi, tu fais comment quand t'es en vélo comme ça? Parce que tu. Enfin, je veux dire, tu sais pas combien de kills tu vas faire dans ta journée, quoi. Alors, tu marques des conneries sur le visa, puis t'espères qu'il vérifie pas. Tu fais ça comment?
Alors, le visa chinois, je pense, c'était une des parties les plus stressantes de mon voyage, sans déconner. C'était un truc de fou. Donc, faut savoir que dans l'Asie centrale, il y a très peu de moyens d'informations. Ça passe principalement par contact entre voyageurs, ce qui est cool de discuter dans les guest houses entre les gens qui reviennent de Chine, les gens qui y vont, comment ils font leur visa, où ils le font. À l'époque, il y avait, donc l'année passée, en mai, juin, il y avait qu'une place pour le faire en Asie centrale, c'était à Bishkek, au Kyrgyzstan. Et du coup, tout le monde se retrouvait, tous les voyageurs qui voulaient aller en Chine se retrouvaient là-bas pour faire leur visa. Et il y avait une espèce de mafia un peu, comme je dirais là-bas, où il y avait qu'une agence de voyage qu'on pouvait appliquer, une ou deux agences de voyage, et qui prenaient super cher. Mais en fait, c'était super simple. Du moment qu'on payait, on remplissait juste une forme, une application, et on payait, on donnait 2 photos et on attendait 2 semaines, on avait le visa en retour. Donc, c'était assez facile après de ce côté-là, une fois qu'on avait l'information, mais ils donnaient des visas que de 1 mois, renouvelables 2 fois à mon époque. Et donc, du coup, ça me laissait au maximum 3 mois pour traverser toute la Chine, ce qui était finalement court de faire ça à vélo.
Ben, c'est grand et c'est pas plat non plus, hein.
C'est pas plat non plus du tout. Donc du coup, ouais, après ma première extension de visa, j'ai appris qu'il était normalement plus possible depuis juillet l'année passée d'éteindre une deuxième fois. Donc ce qui me faisait qu'il me restait genre 3000 km à faire. On a 1 mois pour arriver à Pékin si je voulais pas avoir de problème avec l'immigration ou je ne sais quoi.
Ah ouais,
donc du
chaud,
coup, c'était assez stress, ouais. Donc ouais, la Chine, c'était... Mais à part ça, la Chine c'était vraiment un bon souvenir. J'ai vraiment adoré la Chine. La petite anecdote, il y a eu. J'ai dû gravir un col un jour. Je suis parti, je crois que le départ du col était à 500-600 mètres d'altitude. Il faisait 25-30 degrés, il faisait vraiment chaud. Et il m'a fallu 2 jours pour arriver. Le sommet était à 4300 mètres. Et il y avait 10 centimètres de neige au sommet. Et je pouvais pas rester, j'étais complètement crevé. J'ai dit, mais je peux pas planter ma tente ici au sommet. Faut que je descende de l'autre côté pour trouver un climat meilleur. Donc, je suis passé de l'autre côté. J'étais complètement gelé. J'ai encore crevé 2 fois dans la descente. Là, c'était vraiment galère. Et je crois que le lendemain, il faisait 40 degrés. J'étais à Urumqi. C'était un truc assez fou.
Je suppose que dans le milieu du voyage, la Chine, c'est un des endroits qui est le plus ignoré à tort, je trouve. Je sais pas si t'as le même avis que toi, mais en voyant les photos justement de Laurent Houssin là qui vient d'arriver, donc qui commence à linker un peu les photos, mais il y a des trucs de fou. Et je me rappelle quand j'étais à Pékin, j'avais eu une bonne discussion avec 2 jeunes avec qui on avait finalement passé la journée, de jeunes chinois donc, qui m'avaient montré des photos de là où ils venaient, leur village. J'hallucinais, j'ai jamais vu des trucs aussi beaux, quoi. Et
ouais,
ben on n'en entend pas parler. Bon, déjà parce que la Chine c'est grand, c'est pas compliqué d'y aller, mais c'est quand même plus compliqué que la Thaïlande. Mais enfin, le jour où le tourisme il va arriver là-bas, ça va être incroyable, quoi.
Ouais.
Bon, ils ont pas besoin vraiment
non, ils
des
ont
Européens.
Pas besoin, ça c'est sûr.
Il y a déjà des millions de touristes
Ça c'est sûr, ça
Là-bas,
c'est
quoi,
sûr.
donc.
C'est un truc, j'étais un peu effrayé parce que tous les touristes que j'ai rencontrés sur cette route de la soie qui revenaient de Chine, ils me disaient, là, pour les 90% des gens, ils me disaient qu'ils n'avaient pas aimé, que les gens étaient super inamicaux, que c'était super difficile de voyager et tout. Donc du coup, je me disais, je m'inquiétais un peu. Et pour dire, mon expérience a été totalement le contraire, quoi. J'ai adoré, les gens étaient super merveilleux avec moi, super super hospitaliers. Alors toujours le problème de communication, on est d'accord, mais on
Ouais, parce
arrive
que
toujours
là,
à se
par contre, c'est
débrouiller, quoi.
un des pays où ils parlent vraiment pas du tout anglais, même à Pékin, t'as des problèmes pour te faire comprendre des fois.
Ouais, le truc que j'ai trouvé le plus dur, c'est que même le langage des signes, il veut dire quelque chose de différent. Il marche même pas. Compter, ça marche pas. Avec les doigts d'une main. C'est un truc assez déconcertant, en fait. Et finalement, je pense que c'est peut-être pour ça que certains voyageurs n'ont peut-être pas aimé cette approche d'un pays, je sais pas. Mais ça reste un pays extraordinaire avec des, je pense que c'est les, je vais avoir, j'ai une page sur mon site internet avec les 5 meilleurs highlights que j'ai vus jusqu'à maintenant, et je crois que sauf erreur, sans regarder comme ça, je crois que les deux premiers, ça doit être la Chine. Il y a des dunes, il y a des gigantesques dunes à la fin du désert du Taklamakan, donc entre la frontière du Xinjiang et du Gansu. Et ça, c'est un truc totalement hallucinant. J'ai passé par des montagnes aussi, de Dangxia qui s'appelle, avec des aux différentes strates de couleurs différentes. Ça passe du vert au rouge au jaune. C'est un truc vraiment hallucinant. Donc oui, il y a des sites exceptionnels. Par contre, ils sont super éloignés les uns des autres. Ça prend des plombes pour y arriver, mais quand on y est, on sait pourquoi on va là et on sait pourquoi on voyage.
Ben, c'est vrai que je suis sur ta page justement des 5 endroits que t'as préférés. C'est vrai que dans les deux premiers, c'est la Chine, hein, tu l'as dit, les dunes et Dangxia. Je sais pas si je me semble que c'est Dangxia aussi que Laurent a fait, mais c'est vrai que c'est des couleurs incroyables. Alors moi, j'ai vu l'Himalaya de l'autre côté. Je sais pas si c'est l'Himalaya, remarque, hein. Si,
De
ça fait
quoi?
partie de la Dangxia, ça fait partie de la chaîne
Ah
de
non, non,
l'Himalaya,
non,
non?
non, non, je pense pas. Non, non, c'est bien plus loin. C'est bien plus, non, je pense pas. Voilà. Je pourrais pas te dire comme ça.
Ouais,
Je pourrais regarder
voilà.
sur Wikipédia.
Voilà, on sait pas. Il y a des montagnes quelque part en Chine, mais bref, moi j'ai vu l'Himalaya du côté indien, et c'est vrai que les montagnes, elles ont des couleurs incroyables, même s'il n'y a pas d'arbres ni rien. Même les hautes montagnes, ouais, les sols ont des couleurs qui sont. J'hallucinais quand on était en voiture, c'était vraiment impressionnant, quoi. Et du coup, ça, c'est chaud en vélo, non? Enfin, t'as intérêt à
Non,
avoir un
écoute,
certain
ça, là,
physique, non? Ou bien.
ouais, alors ça montait un peu, mais c'était pas là, non. Mais après ce que j'avais déjà passé, notamment au Kyrgyzstan, avec des cols à plus de 3000, 3500 mètres d'altitude, et la Chine aussi avec plusieurs cols dans ce grand col que j'ai passé sous la neige. J'avais déjà un petit bagage derrière moi, donc ça m'a pas autrement fait peur. C'était pas si dur que ça.
T'avais déjà des kilos dans les jambes, faut dire aussi. Ouais.
J'avais déjà des kills dans les jambes, comme on peut
Ça,
dire, ouais.
peut-être si tu commences avec ça, c'est un peu chaud. D'ailleurs, je sais que je te pose des questions qui sont un peu déstructurées, mais enfin, par exemple, quand tu vas aux Philippines, tu prends ton vélo dans l'avion ou tu loues un vélo quand t'es sur place aux Philippines, parce que c'est embêtant, ça aussi. Tu vois, ton sac
Ouais.
à dos, tu te déplaces facilement, mais le vélo, c'est quand même autre chose.
Alors après les visas, je pense que c'est la deuxième partie la plus stressante du voyage, c'est quand tu dois prendre l'avion, le vélo dans l'avion. C'est pas compliqué en soi, mais il faut bien regarder les conditions des compagnies de voyage. Si elles te, parce que bien sûr que tu as un excédent de bagages, donc faut regarder combien ils vont te charger pour 20 kilos de plus. Si le vélo, il y a des compagnies, le vélo est gratuit. Il y a des compagnies, c'est un kilo, un bagage supplémentaire. Et les compagnies, ils te chargent au kilo supplémentaire. Donc il faut tout regarder. Après, il faut trouver une espèce de box, un carton chez un magasin de cycle pour pacter son vélo dedans. Et après, faut encore réussir à arriver jusqu'à l'aéroport avec ton avec tout ton paquetage. Non, c'est assez épuisant, assez stressant, ouais. Mais c'est possible, c'est possible. J'ai toujours le même vélo depuis que je suis parti.
Ouais, puis accessoirement, tu le fais pas tous les jours non plus, quoi, donc.
Non, j'ai aussi planifié un peu mon voyage en fonction de prendre, pouvoir plus possible prendre des ferries. Parce que ferry, c'est super simple. Tu rentres juste dans le bateau avec ton vélo sans décharger rien du tout. Donc j'ai aussi regardé, mais il y a des endroits, si tu veux y aller, ben, il n'y a pas le choix. Comme l'Australie, il n'y a plus de ferry qui existe pour arriver en Australie. Donc il fallait aussi prendre un vol. Donc ouais, il y a des endroits comme ça dans le monde, si tu veux aller voir. T'as pas le choix.
Ouais, bon, hein, c'est une question d'habitude aussi, je pense, hein.
Ouais, comme tu dis, ça se passe pas non plus tous les jours. Là, je fais 6 mois en Australie, je vais devoir reprendre un vol pour aller en Nouvelle-Zélande. Ben voilà, c'est un espace de 6 mois sans avoir besoin de pacter son vélo, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus souvent.
Ben, merci pour ces infos, hein. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui projettent de faire le tour du monde en vélo qui écoutent Voyagecast, hein, mais pourquoi pas, tu peux peut-être en inspirer d'autres, mais c'est vrai que c'est des petits conseils qu'on aime bien avoir. Alors, tu nous as parlé un petit peu de la Chine, tu avais quelque chose à nous raconter au Kazakhstan. Alors, du coup, on recule un peu dans le voyage, hein, mais bon.
Ouais, au Kazakhstan, j'y suis rentré 2 fois. En fait, j'avais un visa de 2 entrées. Donc, une fois pour atteindre l'Ouzbékistan, qui était une partie super dure. Il y avait pas de route, il y avait des pistes, ça soufflait tous les jours. Pratiquement pas d'endroit pour trouver de l'eau, pour manger. Enfin, c'était super dur. Et la deuxième partie que je suis rentré au Kazakhstan, c'était depuis le Kyrgyzstan pour atteindre la Chine. Et là, je suis passé par un canyon qui s'appelle le canyon de Sharin, qui est, je pense que c'est dans un de mes highlights aussi. Un truc au milieu de nulle part, il faisait super chaud dans des étendues désertiques, un super canyon. C'était un des premiers vraiment gros canyons que je voyais de ma vie. Et je suis descendu dedans avec le vélo, qui était finalement assez dur surtout de remonter les canyons. J'avais plus d'eau et tout, je crevais de soif. Et je rencontre un gars qui descendait avec un appareil photo en bandoulière, un retraité. Et il me dit Bist du von der Schweiz? Parce qu'il faut dire que j'ai un drapeau suisse sur le devant de mon vélo quand je roule.
Mais c'est pour ça que les gens t'accueillent, ils pensent que tu vas leur offrir un chocolat ou un truc comme ça, non?
La plupart des gens confondent, ils croient que je suis la Croix-Rouge ou un hôpital ou un docteur, quelque chose comme ça. Donc ce gars, ouais, je lui dis, on discute 2-3 mots et tout. Il était argovien, en fait.
Ah ouais.
Et il me dit, ah ben, j'ai mon camping-car en haut, il y a ma femme qui est dedans, tu peux aller lui demander de l'eau et tout en soi. Après, moi, je fais 2-3 photos encore en bas dans le canyon. Il était photographe retraité. Donc, je suis arrivé, sa femme m'a accueilli dans son camping-car, m'a rempli mes bouteilles, m'a offert un café et tout. Et finalement, j'ai décidé de camper, m'abriter du vent derrière leur camping-car. J'ai posé ma tente là. On a soupé ensemble, un super moment de partage. Et le matin, ils m'ont dit, eh ben, le matin, t'auras une surprise. J'ai dit, bon, ok. Et tu veux pas croire que dans son camping-car, il avait installé un four cuisinière. Et le gars, il a fait une tresse au beurre. Donc, c'était un dimanche matin. Il m'a fait une tresse au beurre avec un café expresso, de la confiture, du beurre, du pain. C'était un truc hallucinant au milieu de nulle part. La rencontre entre 3 Suisses et une tresse au beurre pour un dimanche matin.
Ah, mais la tresse au beurre, c'est la
Un truc de
tradition, hein, je
fou.
veux dire.
Ouais, mais quand t'es en Centrale-Asie, c'est plus difficile de trouver la tradition, tu vois.
Et c'est là que tu t'es dit, pourquoi j'ai pas pris un camping-car? Pourquoi j'ai pris un vélo? Il y a même pas de four dessus.
Ah, quand je vois les routes quand même. Bon, lui, le problème du camping-car, typiquement, pourquoi j'ai pas au début, quand je regardais les différentes solutions de voyage autour du monde, j'avais pensé prendre une voiture, et lui, typiquement, c'était le cas. Avec son camping-car, il ne pouvait pas rentrer en Chine.
Pourquoi?
Apparemment, ils acceptent pas tout ce qui est moyen motorisé en Chine, en fait. Est-ce qu'ils ont une peur de laisser le véhicule sur place ou je ne sais quoi. Donc, c'est impossible de rentrer en moto, en voiture ou en bus en Chine, en fait.
Tiens, ça, c'est un truc que je savais pas, ouais.
Ouais. Mais en vélo, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, le gars, il avait été jusqu'à la frontière, essayer de rentrer là-bas en Chine, et il pouvait pas. Donc, du coup, il était sur un demi-tour. Donc, ouais. Non, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que là, en Australie, je vois beaucoup de camping-cars quand je suis sur mon vélo au milieu du désert et tout. Puis que je vois qu'ils ont tout le confort. Ils ont la bière fraîche. Ils peuvent cuisiner de la viande, des légumes tous les jours et tout. Ils ont leur cuisinière à gaz et tout. C'est vrai que ça fait quand même envie. Mais bon, toutes ces choses, elles existeront toujours quand j'aurai fini mon voyage à vélo. Donc, c'est pas un problème.
Ouais, puis je pense que tu peux en profiter quand même de temps en temps quand tu t'arrêtes dans des villes et tout ça. Je pense par moment. Alors là, justement, je t'ai dit ce qui m'a impressionné quand j'ai vu ton truc. Enfin, la Chine, il me semble qu'il y a quand même des villages et tout, mais t'as vraiment traversé l'Australie et là, il y a vraiment des... J'ai l'impression qu'il y a des centaines de kilomètres où il y a que dalle, quoi. Et là, moi, ça me ferait... J'avais un moment, parce que moi, j'ai rêvé d'aller dans tous les pays du monde, un moment où je rêvais d'aller en Australie et puis de traverser justement un peu comme tu l'as fait... mais en moto, on m'avait dit oui, mais même en moto, c'est compliqué. Si t'arrives un truc au milieu, t'es perdu, tu peux crever au milieu de nulle part avec les kangourous. Je me dis, toi, tu le fais en vélo. Enfin, ouais, c'est.
Il faut. Alors pour moi, c'est un challenge aussi. Ça, c'est sûr. C'était un de mes prochains challenges une fois que j'avais fini l'Asie de traverser ce désert. Et pour être honnête, et puis c'est vrai que j'en avais un peu peur. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens, notamment des locaux, qui m'ont dit, ah, c'est pas facile et tout.
Ouais, puis en
Mais il
plus,
faut
t'as pas de
aussi.
téléphone, t'as rien au milieu là.
En plus, j'avais pas de réseau et tout. Mais il faut savoir aussi que les Australiens, ils aiment bien effrayer les touristes. avec
surtout les Français, mais toi t'es Suisse donc ça va.
Non, mais c'est vrai que finalement avec le petit bagage que j'avais derrière moi déjà, j'ai trouvé ça plutôt facile. Finalement, je pouvais remplir de l'eau tous les jours, tous les 5 kilomètres on peut trouver de l'eau. Alors c'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau de puits, mais je veux dire c'est possible. De la nourriture on peut trouver, c'est cher, donc du coup j'en transportais beaucoup, jusqu'à 9-10 jours de nourriture avec moi. Je m'étais arrêté dans les grandes villes pour faire le plein, pour pas trop dépenser d'argent après plus tard, mais finalement c'était accepté. J'ai eu un vent de face pendant tous les jours, pendant 2 mois presque, mais finalement c'était assez facile. J'ai trouvé la Chine, la traversée de la Chine, notamment de la partie ouest, beaucoup plus dure, où là il y avait un écart de température aussi beaucoup plus grand, jusqu'à 47 degrés des jours. Et là, il y a beaucoup moins de personnes sur la route, il y a beaucoup moins de trafic. Et j'ai trouvé beaucoup plus dur la Chine que l'Australie.
Ah, j'aurais été persuadé du contraire, justement.
Ouais, non, il faut pas. Alors, c'est bien d'être prudent et tout. Je veux pas dire que c'est facile, hein, mais sincèrement, c'est pas tout à fait comme les. On m'a effrayé aussi avec les animaux et tout. Et j'ai vu plein de dingos. J'ai vu des serpents. J'ai jamais été inquiété par. J'ai trouvé même plutôt gentil les dingos. C'est une petite compagnie.
Alors, dis-nous ce que c'est juste parce que je suis pas certain.
Ah, ok. Un dingo, c'est un chien sauvage. Un chien sauvage qui est. Je peux pas dire le croisement de quoi et quoi. Et qui ont la réputation d'être agressifs, qui vivent en meute aussi, un peu genre loup. Mais en fait, ça s'est toujours très bien passé avec ces dingos. Ils sont toujours, comme tous les animaux, restent toujours de toute façon plus effrayés par l'être humain que nous. Donc, c'est en général, ils fuient ou tu sais.
Ouais, au point de vue des chiens, il me semble que j'ai entendu beaucoup de voyageurs qui avaient des problèmes. Est-ce que c'est au Kazakhstan ou...
Alors moi, j'ai eu des problèmes. Plus souvent, les chiens, c'est en Turquie. Il y a beaucoup de chiens sauvages en Turquie, ou les chiens de berger qui te courent après. Ils sont, il y en a, je sais pas la race que c'est, mais ils sont presque plus gros que le vélo. Donc quand t'es en descente, ça va, tu peux les semer et tout. À plat, peut-être, si t'es assez fort, mais en montée, ils t'ont aucune chance.
Je me semble qu'il y avait, j'avais lu des voyageurs qui s'étaient fait mordre justement par des bandes de chiens un peu dans certains de ces pays, un peu dans les environs.
Ouais, alors je sais.
Alors, depuis, on sait peut-être pas de chance aussi, hein, tu sais.
Ouais. Depuis la Turquie, j'ai acheté un spray au poids pour ma sécurité, surtout pour les chiens, c'était pas pour les gens. Mais je l'ai toujours intact, donc j'ai jamais utilisé. Donc jusqu'à maintenant, ça joue. Et je roule avec un bâton en travers de mon vélo. Qui a plusieurs fonctions actuellement. Une, de pouvoir le prendre sur mon vélo en roulant pour effrayer le chien qui arrive, si jamais. Et je le déporte un peu sur le côté de la route, qui me sert de protection, que les voitures me prennent un peu plus large quand elles me dépassent. Et la troisième fonction, il me sert de pied pour mon vélo, parce que le pied original pour tenir ton vélo debout est souvent pas assez solide quand le vélo est tout à fait tout chargé. Donc, multifonction, mais ouais, bien pour les chiens, c'est un bon conseil.
Ça. Ouais. Ou alors tu sur les roues, tu devrais mettre les mêmes trucs que dans Ben Hur, tu sais, les trucs avec les pics qui sortent des roues là, je suis sûr que ça ira super bien.
Alors qu'actuellement en Australie, j'ai trouvé une espèce de règle en aluminium super légère, et j'espère que s'il y a un qui me dépasse, que ça puisse faire une belle raye sur sa voiture, je sais pas.
c'est pas bête, ouais, je pourrais te prêter des bouts de diamant du boulot, ça lui couperait la carrosserie en deux. Bon, je t'ai dit, je suis fatigué, donc je suis pas très sérieux.
Pas de souci.
Mais c'est pas con, ça s'est dit, le coup d'avoir le truc vraiment long. Je sais que, je sais pas si t'as suivi un petit peu, mais je crois que t'étais déjà en voyage, tous ceux qui ont fait le Sun Trip, qui était.
Écoute, j'en ai entendu parler, je crois que j'ai regardé une vidéo et j'ai écouté un podcast, mais je suis pas sûr que c'est toi qui l'as fait, en fait. Ça devait
Alors,
être sûr.
Si c'était avec Annick Marie, c'était moi. Avec une...
Ah non, je confonds, ouais. Non, oui, le Sun Trip, j'ai écouté ton podcast sur le Sun Trip avec les vélos solaires, là.
Exactement.
Qui allait jusqu'au Kazakhstan, quelque chose comme ça.
Exactement, ouais, avec Annick Marie qui est arrivée, hein. Mais c'est vrai que plusieurs, ils ont eu des problèmes, justement, à certains moments dangereux, notamment dans les tunnels qui sont pas super éclairés. Et le coup de la réglette, là, pour... Ben justement pour un peu faire chier les automobilistes, pour qu'ils t'évitent parce que sinon ils ont trop mal. C'est vrai que ça peut les éviter à... Parce que j'ai l'impression que certaines fois c'était un peu essayer de frôler le cycliste le plus possible parce que c'est rigolo, puis c'est pas très drôle pour le cycliste. Donc ouais, c'est pas idiot comme truc.
Non, c'est vraiment pratique. Faut juste faire attention quand t'arrives dans les villes parce que t'es bien plus large et puis cela augmente les voitures souvent. Un peu tendu si t'as oublié que t'as le bâton derrière toi.
Bon, tu restes accroché entre deux voitures une ou deux fois, puis après, tu n'oublies plus de l'enlever.
Ouais. Non, c'est cool.
Mais ouais, pas bête, pas bête. Mais ouais, bon, je me sentirais plus rassuré en 4-4 quand même, mais
Non, bah de toute façon, je pense que mais moi, genre, j'aurais tendance à m'endormir, je pense, au volant dans des grandes distances. Donc c'est bien que je sois sur le vélo. Il y a très peu de moments où tu peux t'endormir sur le vélo.
c'est pas faux, ouais, tu t'arrêtes tout de suite au moins, c'est ça l'avantage.
C'est
Si
ça.
c'est au milieu de la route, c'est moins pratique, mais Et ok, pas mal ces histoires. Alors du coup, ben Kazakhstan, voilà, on t'a rencontré l'Argovien, c'est fou. Je sais pas quel est ton sentiment, parce que toi t'as fait maintenant, ben, on dit un plus d'un tiers, je pense, de la planète en vélo, mais on rencontre quand même pas mal de Suisses sur les routes. Alors je sais pas si c'est le cas en vélo aussi, mais je trouve que pour un petit pays, il me semble tu trouves des Suisses partout où tu vas, quoi.
Alors moi, le premier Suisse depuis que j'étais parti, je l'ai rencontré qu'au Kirghizistan. Et là, pour le coup, c'est aussi rigolo. J'ai rencontré le premier jour, j'ai rencontré trois, dont un qui habite à Ropra, c'est un petit bled qui est à 15 km de chez moi. Et que je connaissais son super bien son frère, en fait. Donc c'était le troisième Suisse que je rencontrais dans la même ville, à Bishkek. Et au Kirghizistan, je crois que j'en ai rencontré en tout cas une vingtaine de Suisses. Un truc de fou. Un truc de fou, ouais. Et après, à la Chine non plus. Non, je n'ai pas rencontré beaucoup. Depuis que je suis en Australie, j'en ai rencontré plus, ouais.
Je sais pas si j'avais raconté sur VoyageCast déjà, parce que j'oublie à force d'enregistrer trop de podcasts, mais aux Philippines, je suis parti d'El Nido à Palawan. Je sais pas si t'as été à Palawan, toi, parce que toi, je sais
Non,
que t'as
j'ai porté
été,
pas la bonne.
ouais, parce que je sais que t'as été à Banui avec
Ouais,
les rizières
ouais.
en terrasse, hein. Tu l'as d'ailleurs noté dans tes highlights. C'est vrai que c'est magnifique, hein. Et j'étais rentré dans un petit bus, dans une jeepney, là. Et j'étais à côté de gens qui parlaient allemand. Donc, moi, comme j'habite Berne, je parle un petit peu allemand. Donc, j'ai parlé
C'est
avec eux.
l'avantage.
Et ouais, et ils habitaient, je te jure, à 5 minutes à pied de chez moi, quoi.
Tu
Le
les
truc
connaissais
aussi.
pas?
Bah, non, bien sûr. Et le mec, en plus, était ami avec le chef, enfin, un de mes chefs, parce que je suis dans une très grande entreprise, de l'entreprise où je travaille à Thun, quoi. Un truc totalement
Excellent.
improbable aussi, ouais.
Excellent. Normalement, il est
C'est...
souvent petit, ouais. Il est souvent petit, le monde du voyageur, ça c'est sûr. Ça c'est
Ouais.
sûr.
D'ailleurs, c'était pas forcément prévu, mais raconte ton truc avec le gars qui faisait du vélo, là, que t'as entendu dans un podcast, parce que ça aussi, c'est un truc énorme, que le monde, il est petit, quoi.
Ouais, ça fait maintenant 2 mois en arrière, j'étais sur la Great Ocean Road
Donc en Australie, hein.
en Australie, et j'écoute un podcast dans ma tente le soir d'un gars que j'avais, un podcast que j'avais téléchargé d'une autre chaîne, qu'il avait fait un voyage à
Tu peux
vélo
dire,
sur,
hein, où tu l'as. Enfin, on n'y a
ben, je me
plus
souviens
concurrence.
plus, j'aimerais bien dire, mais je me souviens plus.
Bah, je suppose, comme tu en
C'était
parles.
France Inter, c'était Carnet d'Asie, mais je me souviens plus si c'est sur France Inter
C'est
ou si
possible,
c'est
c'est
vraiment une
possible.
chaîne podcast, je me souviens plus. Enfin bref. Et j'écoute son podcast qui fait un tour du monde, où lui en étape, ça fait 10 ans qu'il fait pendant 3 mois chaque année une étape de son tour du monde.
Ah ouais.
Émission enregistrée à Singapour. Et qui disait, donc c'était cette année, et il disait, ah, je vais arriver juillet-août en Australie, après la Nouvelle-Zélande. Et 3 jours après, je rencontre ce gars sur la route, et je le reconnais avec son vélo, parce qu'il y avait une photo de lui sur la pochette du podcast. Et il me dit, salut, je m'appelle André, c'est un Français. Je dis, ouais, je pense que je te connais. Le gars, il était tout surpris. Et on a bien ri, quoi, quand je lui ai raconté que je l'avais écouté en podcast il avait été enregistré il y a 3 4 mois en arrière. Ouais, c'était rigolo.
Ouais, alors je sais pas, je vois sur les routes de l'Asie, il y a un gars qui s'appelle Marc Delval, mais du coup c'est pas lui.
Exactement, c'est exact. Oui, c'est lui, c'est lui.
Alors
J'ai dit quoi, André? Non.
t'as dit André. Alors c'est sur les routes de l'Asie, hein, Romain, que je profite de saluer, un bisou Romain, qui lui est effectivement à Singapour, qui est effectivement il y a aussi un autre podcast qui s'appelle Lost in Asia de l'ami Bobby. Le Canadien qui est expatrié à Singapour, et c'est sans doute là que tu l'as écouté. On lui fait un gros bisou. Il fait des excellents podcasts sur le voyage. Il était venu nous parler de Palawan. Je sais pas, on avait enregistré ça en début d'année à peu près. On avait à quelques jours d'intervalle, on avait visité Palawan les deux, et on savait pas, on se connaissait pas. C'est triste. On aurait pu synchroniser ça, mais ouais, comme quoi le monde est super petit, quoi. C'est
Ouais,
hyper drôle.
c'est rigolo, c'est rigolo. Après, je pense aussi que le monde des voyageurs à vélo est super, beaucoup aussi beaucoup plus restreint, parce que finalement, en vélo, quand t'es dans un pays, il y a plein d'endroits à aller voir, mais il n'y a pas 36 000 routes pour y aller, je veux dire, en bon état. Donc automatiquement, c'est joliment des chemins de rencontre totalement, quoi, parce que
D'ailleurs,
genre,
ceux qui font
ouais.
du vélo le savent probablement déjà, mais tu m'as parlé d'un réseau alternatif à Couchsurfing, dont on avait parlé sur VoyageCast aussi justement, mais qui est spécifique au vélo. Alors pour ceux qui font du vélo et connaissent pas ce réseau-là, ça peut peut-être les intéresser.
Ouais, ça s'appelle warmshower.org. Un site, je crois que ça a été créé en Allemagne en 2007, si je ne dis pas de bêtises, qui a une communauté de cyclistes qui a exactement le même principe que, le Couchsurfing, mais c'est seulement des cyclistes qui accueillent des cyclistes. Et ce qui est super cool, c'est que c'est une mine d'informations quand tu arrives dans un pays hébergé chez un cycliste local. Il peut te donner des bons plans, les routes à prendre, les choses à voir, où il y a un magasin de vélo le plus près et tout. Il sait que t'as besoin d'une machine à laver, il sait que t'as besoin d'une douche, que t'as besoin du repos.
Non, c'est vraiment... VD40.
un petit peu de VD40 si t'en as plus dans ta sacoche. non, c'est vraiment utile. Vraiment utile. Et ça te permet d'avoir un lit. Ça te permet d'avoir un lit souvent.
Bah ouais, je pense qu'ils comprennent aussi que peut-être t'es dans ta tente et tout. Ouais, c'est sympa, je trouve bien qu'il y ait ces réseaux qui sont peut-être encore plus spécialisés que Couchsurfing, justement, ça. Je connaissais pas ça, c'est vraiment intéressant.
Ouais, j'ai utilisé les deux plusieurs fois. Je pense que j'ai une huitantaine ou une nonantaine de nuitées entre le Couchsurfing et Warm Shower. Et c'est vrai que Couchsurfing est bien aussi, je l'utilise dans des endroits un peu moins développés pour les vélos parce qu'il y a très peu de hot warm shower et c'est vrai que j'utilise plutôt au début du voyage pour avoir directement les bons conseils et les bons trucs, les bons plans à faire et tout. Et après, non, très peu, pour être honnête.
Ouais, je sais peut-être des réseaux qui sont beaucoup plus faibles aussi, comme tu disais, c'est plus compliqué d'avoir...
C'est plus compliqué d'avoir le contact, faut envoyer plusieurs demandes et tout, donc c'est aussi un peu plus aléatoire, ouais.
Ok, ben merci, c'est un conseil que ceux qui font du vélo vont certainement apprécier s'ils le savaient pas avant. Du coup, on va passer, alors on a parlé Chine, Kazakhstan et tout ça, on va passer sur le Japon. Alors ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. On en a beaucoup parlé du Japon sur VoyageCast aussi, c'est un pays qu'on aime étrangement bien quand on est européen, enfin français surtout, je sais pas si c'est à cause des mangas ou j'en sais rien, qui fait beaucoup rêver. On avait parlé de... C'était une image, je crois, qui va commencer bientôt. Trop, je crois, l'année prochaine. Alors lui, il va faire un tour du Japon à pied.
Ok. Donc, okay.
Tu diras, le Japon, c'est petit, c'est vrai, comparé à traverser la Chine en vélo, c'est pas grand-chose. Mais à pied, quand même, respect. tu disais, t'as vécu aussi des trucs sympas au Japon avec ton vélo?
Ouais, le Japon, déjà, c'était un rêve d'y aller. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été jusqu'à Pékin, j'ai traversé toute la Chine pour atteindre le Japon. Et j'avais prévu d'arriver pour l'automne pour aller voir les couleurs d'automne, notamment au nord, à Hokkaido, avant qu'il fasse trop froid. Et je me disais, mais ça sera après l'hiver, quitte à passer l'hiver, autant peut-être arrêter un peu de rouler à vélo et trouver un travail de volontariat. Il y a plusieurs sites qui existent à ce propos-là et j'ai trouvé un job dans une station de ski où j'ai pu, où j'étais nourri, logé avec un abonnement de ski, à la saison pour, contre quelques heures de travail.
Suisse, quoi.
Paradis pour un Suisse, mais mon père me manquait.
La fondue le soir, et puis c'était bon.
La fondue, j'en ai eu, parce que c'était la première fois depuis, ça faisait une année que j'avais une adresse fixe pendant 4 mois. Ou alors, du coup, ma famille, mes amis m'ont tous envoyé des paquets avec de la fondue, du salami. J'ai eu du fondant, de la dole d'aimant, et tout ce qu'il faut. Donc, c'était vraiment,
excellent.
Je crois que j'ai pu me faire 3 fondues ou 4 fondues sur les 4 mois. Non, c'était vraiment le top. Donc, c'était une super expérience, là, au Japon. Ce qui me faisait un peu peur de poser le vélo après une année, de dire, maintenant, pendant 4 mois, touches plus le vélo. Et finalement, j'ai pris assez vite le pli. Mais après 4 mois, c'était assez et j'avais besoin de retourner. Je sentais le besoin de retourner sur vélo. Donc, je suis reparti fin février et il y avait encore pelé de neige partout. Et du coup, j'ai pris un ferry pour descendre au sud de Tokyo. Et là, j'ai commencé à rouler. Je suis arrivé en plein au printemps pour la floraison des cerisiers qui était, je suis juste parti quand les pruniers étaient déjà, les fleurs roses des pruniers étaient dehors et les cerisiers qui commençaient. Et ouais, après, je suis parti parce que mon visa, il expirait. Parce qu'en tant que Suisse, faut savoir qu'on peut rester 6 mois au Japon par rapport à, je crois qu'il doit y avoir 7 ou 9 pays dans le monde où on peut éteindre pour 3 mois supplémentaires notre visa au Japon.
Normalement, avoir l'argent de tous les grands de la planète, ça aide à avoir des bons visas. Hein,
ah, ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'Australie est exactement la même chose, du coup. non. Donc, ouais, j'ai fait exactement 6 mois là-bas. J'ai vraiment eu un bon feeling. Les paysages sont extraordinaires. Les gens sont extraordinaires. la culture super complexe, mais super intéressante. Non, vraiment, vraiment, c'est un rêve et je regrette pas, c'était vraiment super.
C'est vrai que le Japon, c'est un truc qui fait rêver quand même, hein, ouais. Et en plus de ça, vu les paysages et vu la taille, il me semble assez, c'est pas vraiment petit le Japon, mais c'est pas très grand non plus. C'est vrai qu'en vélo, ça a l'air assez bien adapté en fait.
Ouais, c'est accessible, il y a beaucoup de comment on appelle ça? Bicycle pass, j'ai envie de dire en anglais, je trouve pas le mot, des pistes cyclables en français.
Ok, ouais.
Il y a beaucoup de pistes cyclables au Japon, des réseaux qui sont prévus pour les vélos. Il y a une fausse idée du Japon, tous les gens que j'ai rencontrés me disent, t'es au Japon 6 mois, mais tu dois être riche et tout, c'est super cher. Et c'est pas si cher que ça. Alors le vélo est un moyen vraiment bon marché de voyager, je suis d'accord, mais c'est pas si cher que ça. Il y a plusieurs bons plans. Si on connaît un peu, on se renseigne un peu. Et c'est un pays qui est super cher par rapport au reste de l'Asie, mais par rapport à l'Europe, aux Amériques, en Australie, ça reste exactement dans la même norme de prix. Donc c'est vraiment pas. C'est une fausse idée souvent. Je pense que les gens, ils ont du Japon que c'est super cher.
Bon, de toute façon, pour un Suisse, tout est pas cher.
Pour un Suisse, tout est pas cher si tu pars en vacances 2 semaines, 3 semaines, un mois. Quand
Je
tu
disais
regardes un
par
peu plus
rapport au
long
prix
cours,
dans
tu
nos
vas
pays, par rapport au
on
prix
est
dans nos
d'accord,
pays, tu vois,
on a de
c'est
la chance. On a de la
ouais.
chance. Mais c'est vrai que j'ai plus ce rapport de prix par rapport à la Suisse après 2 ans. Donc c'est vrai que c'est chaque fois le choc. Quand je suis arrivé de Chine, je suis arrivé au Japon, j'ai dit, wow, c'est super cher.
Ah là, il y a une
Quand je suis
différence.
arrivé, d'Indonésie en Australie, j'ai dit, wow, c'est super cher aussi. C'est vrai que j'ai plus ce rapport avec ma vie d'avant, le prix suisse et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu, mais bon, on s'adapte et c'est pas insurmontable. On arrive toujours à se débrouiller.
Ouais, et puis je pense maintenant avec des choses comme le couchsurfing par exemple, ça peut changer vraiment beaucoup un voyage. Je veux dire, si déjà tu payes pas, même si c'est rien que la moitié des nuits, enfin c'est déjà énorme comme gain quoi. Ça rend le
Ça,
voyage beaucoup moins
c'est
cher quoi.
pour la petite histoire aussi à Osaka. Il y a beaucoup d'autres warm showers de réseau pour ce réseau cycliste justement d'hébergement au Japon. Et à Osaka, j'écris à un gars qui m'accueille pour 3 jours. Et il me disait, il était sur couchsurfing avant. Et le gars, il recevait jusqu'à 300 demandes par semaine de couchsurfing.
Wow.
Parce que c'est une grande ville, c'est un truc à voir et c'est super cher, donc les gens ils essayent de trouver. Et c'était impossible à tout trier et tout, et du coup il faisait un peu de vélo, il a entendu parler de site, donc il a pivoté sur Warm Shower, il a arrêté Couchsurfing, ce qui fait qu'il reçoit trois demandes par semaine maintenant. Et c'est beaucoup plus gérable et il peut passer du temps avec ses autres aussi.
C'est pas mal quand tu penses à un réseau seulement pour les cyclistes, 3 demandes par semaine.
Ouais, bon, alors c'était la moyenne parce que l'hiver, il y a non plus pas beaucoup de monde qui va, si tu veux
Ouais,
bien.
ça doit être
Donc,
concentré en été, mais enfin, surtout, enfin, il y a le printemps hein, qui est très intéressant au Japon, comme tu disais avec les pruniers, les cerisiers, où là tout le monde veut y aller. Et c'est vrai que là, c'est les prix flambent, quoi, parce qu'ils savent très bien que tout le monde veut y aller à ce moment-là. Ouais.
Donc, et après, je dois dire, c'est vrai que dans tous ces pays un peu développés et tout, ce qui reste cher, c'est les transports. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage en vélo, qu'on n'a pas besoin de se soucier de ça.
Bon, au Japon, ce qu'il disait, alors c'est vrai qu'en à pied tu mets beaucoup plus longtemps, mais Tunimal disait, je crois qu'il mettait déjà 3 4 jours à sortir de Tokyo à pied, tu
Ah
vois.
ouais, ah, je veux bien croire, moi j'ai fait, je crois qu'il m'a fallu en tout cas une demi-journée pour sortir à vélo, ouais.
Ah, tu
Ouais,
vois, c'est.
non, c'est les villes, c'est vrai que c'est. Je me souviens à Pékin, il m'a fallu j'étais arrivé en fin de journée, mais il m'a fallu encore un jour entier pour arriver au centre, ouais, à vélo. Ouais, non, c'est immense.
Pékin, je sais pas si. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai été à Pékin et il n'y avait pas de smog. Tu sais, il y avait vraiment rien. Tout
Ah, ok.
était le ciel
Ah,
était
t'as eu de la
super
chance.
clair. Ah, j'ai eu une chance incroyable, surtout que je crois que j'ai pris l'avion pour rentrer, donc j'ai mis, je sais pas, 12 14 heures à rentrer, je crois. Ouais, peut-être même un petit peu plus. Et quand je suis rentré dans le journal, le 20 minutes, tu sais, qu'on a en Suisse, il y avait une photo de Pékin prise le jour d'avant où il y avait justement le Mont Brouillard et tout, et j'ai loupé à un jour près, quoi. J'étais limite déçu, tu vois. Je me suis dit, mais c'est
Ouais,
nul, tout le monde va. Tu sais, c'est comme quand tu vas en Angleterre et qu'il pleut pas, tu vois. T'es un petit peu déçu, tu
vrai que t'es un peu déconcerté. Il faudra retourner.
T'as loupé un truc, ouais, voilà. Mais tu sais que ça, par contre, quand t'es en vélo en Chine, ça, enfin, je sais pas comment t'as vécu ça, mais ça va pas être évident pour la respiration et tout.
La côte est, quand je suis arrivé, les 25% derniers du trajet, donc sur l'est, la partie est de la Chine, a été vraiment horrible. Je pense que j'ai perdu quelques années de ma vie à respirer les gaz d'échappement. En plus, il y a beaucoup de camions qui transportent du charbon. Donc, le
Il y a
soir,
beaucoup d'usines à
j'étais,
charbon là-bas, de toute façon.
ouais. Et là, le soir, j'étais noir, mais noir, tu es noir, de la tête aux pieds. c'était terrible. Et après, en arrivant au Pékin, ce smog où tu vois jamais le soleil. C'était assez dur, ça a été assez stressant parce que le trafic, c'était super bondé, ça roulait super mal. J'ai même été des soirs plus fatigué psychiquement que physiquement.
Par le stress des automobilistes.
Par le stress des automobilistes et tout, ouais.
Ah oui, ça, c'est aussi une question qui me vient quand tu parles comme ça, mais en Chine, ce qui est rigolo, c'est les panneaux qui sont en chinois. Et c'est la même chose au Japon. Enfin, tu vois, c'est des pays où c'est pas encore, ça sera peut-être jamais écrit en anglais, tu vois, ou en écriture qu'on peut lire facilement, on va dire. Tu fais comment? T'as un GPS? Tu fais comment pour te...
Ouais, alors, pour la petite histoire, moi, j'ai jamais eu de GPS jusqu'à maintenant. J'ai toujours voyagé avec une boussole et une carte. Je me suis jamais perdu jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'en Chine, quand je suis arrivé dans la première province du Xinjiang, si je prononce bien, les panneaux sont écrits en chinois et en arabe, parce que c'est un pays qui reste musulman et de souche arabe. Donc, pour sortir d'une ville, sans le nord, le sud, l'est et l'ouest, t'as aucune idée de savoir où tu vas et si t'es juste, quoi. Puis en plus, pour donner ton chemin, c'est assez compliqué parce que même la prononciation des mots, ils comprennent pas parce que t'as pas la bonne intonation et tout. Donc, ce qui m'a sauvé souvent, c'est les routes ont un numéro et si t'as une bonne carte, t'as le numéro de la route sur les bornes kilométriques, il y avait le numéro de la route. Donc, tu dis, bon, là, t'es pas faux, t'es juste. Et après, petit à petit, t'apprends à déchiffrer les signes. Pékin, après, je savais écrire par cœur parce que je le voyais souvent sur les panneaux. Mais t'apprends à déchiffrer un peu les caractères que t'as besoin et t'arrives. Mais après, en fait, finalement, il me semble que les panneaux étaient quand même traduits en anglais dessous.
À Pékin, oui, il me semble en partie, en tout cas, parce que par exemple les stations de métro, c'est parce qu'il y a eu les Jeux, hein, donc
ouais,
je suppose que les athlètes pouvaient pas apprendre le chinois pour apprendre où ils devaient aller, mais il me semble qu'il y avait quand même pas mal de trucs en chinois. Je sais que pour trouver mon hôtel débile au milieu de nulle part, c'était un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais bon, pour te rassurer, moi j'ai souvent un GPS via mon téléphone mobile ou n'importe quoi et je me perds quand même, hein, donc. Comme quoi, c'est pas forcément l'outil qui compte, c'est de savoir s'en servir.
Non, c'est ça, ouais. Non, j'ai jamais eu ça. Donc, quand je devais me diriger dans une grande ville, si la dernière connexion Internet que je pouvais avoir, j'allais sur Google Maps où je devais aller et je prenais une photo avec mon appareil photo de l'écran d'ordinateur avec Google Maps en arrière-plan et je suivais, quand j'arrivais dans la ville, je suivais par ma caméra la route que je devais prendre, quoi. Mais on se débrouille toujours, quoi. C'est pas impossible.
Ouais, puis bon, en principe, c'est pas tragique de se tromper non plus, je suppose. Enfin, toi, il y a le risque que si tu vas dans la même voie direction, puis tu fais 100 km dans la voie direction, c'est vrai que c'est un peu embêtant, quoi.
C'est vrai puis en fin de journée, quand t'as prévu d'arriver dans une guest house et que tu tournes encore 3 heures pour trouver, c'est vrai que des fois, tu commences à être un peu nerveux. Un peu fatigué et nerveux, ouais. Mais bon, en général, tu trouves.
Ok, mais ouais, c'est vrai que c'est le coup de prendre en photo. Moi, je prends beaucoup de choses en photo avec mon téléphone aussi parce que je suis sûr que ça résiste aux connexions et tout ça. Faut juste pas perdre le téléphone après. C'est un autre problème, on va dire. Pour le Japon, d'accord. C'était intéressant. On va peut-être finir par les Philippines. Alors, tu m'as dit qu'il y avait un truc aussi. Je crois que tu m'as dit une des rencontres les meilleures de ton voyage. Alors, du coup, vu que le reste était intéressant, là, je suis impatient de savoir. Ça va être.
Je pense que j'allais sur le... En fait, je suis arrivé à Manille, donc je suis parti sur le nord pour aller voir les rizières en terrasse et les montagnes. Et je suis arrivé dans un petit village en bord de mer avant de commencer à monter, et qui est accueilli par une personne de la septantaine, un Philippin. Et je suis resté 3 jours chez lui. Et ce gars était, je pense que c'était la rencontre la plus intéressante que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il connaissait tout, il avait fait tout, il m'a appris à monter aux arbres, choisir une noix de coco, il m'a appris à planter des manguiers, il m'a dit, il a été enrôlé dans la guerre du Vietnam par l'armée américaine quand l'armée américaine était aux Philippines, du coup il avait un passeport américain, il a une foule d'histoires derrière lui, il m'a appris à faire un réchaud en recyclant deux canettes d'aluminium, de bière ou de quoi que ce soit, à faire un réchaud pour cuire ton café ou je ne sais quoi. Un type vraiment incroyable. J'aurais pu passer 2 semaines chez lui, sans problème.
Tu l'avais trouvé comment, lui?
C'était en fin de journée, j'étais dans un village, il fallait un endroit pour planter ma tente. Je suis arrivé dans une espèce d'allée, je suis rentré dans une propriété comme je fais souvent et J'ai demandé s'il y avait une place pour planter ma tente. Et le gars, il m'a dit, pas de problème, tu peux rester chez moi et tout. Ça s'est fait comme ça, tout simplement.
C'est vrai que j'avais trouvé intéressant. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans l'histoire parce que c'est vrai que c'est tout des choses. Enfin, on n'apprend pas à l'école ce qui se passe. Mais t'as, je sais plus. Non, c'est pas Banoé. C'est oui, je me rappelle plus dans un village, mais t'as encore des ossements de soldats japonais.
Je sais pas
si t'as été voir ça, ça maintenant. C'est pas Banoé. C'est avant Banoé.
Je me souviens qu'il y a des espèces de cercueils qui sont pendus dans sur les falaises là.
Oui. Alors c'était
une espèce de cimetière.
Alors mais c'était pas là. Alors là, c'est un truc très étrange, tu vois. C'est au sommet du village, et puis moi, j'ai été me promener, et puis il y a vraiment des trucs qui font pour nous vraiment tribal, tu sais. C'est-à-dire, t'as vraiment plusieurs crânes qui sont assemblés avec les os, avec des plumes et des machins. Puis moi, je regardais ça, puis je discutais avec le gars avec qui j'étais. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et puis il me fait, ben c'est encore les ossements des Japonais qui ont mal fini quand ils. Je suppose quand les Américains sont venus, tu vois, ils ont réussi quand même à en choper quelques-uns. Et c'est vrai que c'est très étrange parce que, enfin oui, c'est récent encore, tu vois. Et cette façon, c'est un mélange de tribal, de guerre récente. Enfin, c'est très intéressant.
C'est un truc que j'ai découvert depuis que je suis arrivé au Japon, jusqu'aux Philippines, la Malaisie aussi. Au niveau de la, un truc que je connaissais pas du tout, très peu informé sur la guerre du Pacifique, durant la Seconde Guerre mondiale, et les Philippines, le Japon étaient vraiment au centre aussi de cette guerre-là. Il y a plein de sites commémoratifs, il y a des histoires affreuses comme des marches de la mort, il y a un cimetière, notamment à Manille, un cimetière de l'armée américaine.
Oui.
Je crois que c'est le plus grand cimetière après les États-Unis ou dans le monde.
Après Arlington, je suppose.
Ouais. C'est un truc. Je me suis vraiment passionné un peu. J'ai commencé un peu à apprendre un peu toute cette guerre du Pacifique. C'était super passionnant en fait.
Ce qu'on en sait, enfin, il y a, je crois pas dire de bêtises, le film Les Lettres d'Iwo Jima qui raconte justement ce qui s'est passé sur cette île avec d'un côté les Américains et de l'autre côté les Japonais. Mais c'est vrai que c'est tout un pan de l'histoire qu'on connaît pas assez. Et aux Philippines, je me suis vraiment dit, mais en fait, je savais même pas que les Japonais étaient arrivés là, que les Américains ils étaient venus après. Enfin, on peut pas tout savoir en même temps, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît
pas.
C'est
pour ça qu'on voyage.
Ben oui, c'est vrai, parce que sinon, moi, j'aurais jamais appris ça, c'est vrai.
Et donc après, je suis descendu sur le sud du pays, parce que c'était le seul endroit depuis l'extrême sud qui s'appelle, une ville qui s'appelle Zamboanga, dans le Mindanao, où il y avait un ferry qui passait pour aller en Malaisie.
Et alors c'était une région. En Malaisie?
Ouais. Alors c'était une région super déconseillée, parce que c'est super.
Moi j'ai entendu qu'il y avait des pirates, parce que du côté de Palawan, justement, quand tu vas à l'extrême sud.
Ouais, sud-ouest, sud-est.
Ouais, tu vas à l'extrême sud de Palawan, tu es très très proche des Malaisies. Alors moi, bon, à la moitié, enfin, on va dire à deux tiers de Palawan, les habitants m'ont dit qu'il fallait justement pas aller plus loin. Alors il y avait des problèmes avec alors à Palawan c'est très spécial parce qu'il y a des problèmes avec les mines que les Américains, les Chinois viennent se servir, qui chassent les gens sur place, etc. Puis comme t'es un blanc, ben t'as tendance à être Enfin, j'étais vraiment dans des endroits où il n'y avait pas d'autres touristes, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas été plus loin parce que je me suis dit que ça valait pas forcément la peine de... Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques, tu vois, mais ça valait pas la peine. Et donc, du coup, parce que moi, j'avais lu justement qu'il y avait des pirates aussi. La dernière ville de Palawan, avant donc de traverser puis d'aller en Malaisie, c'est limite s'ils disent que c'est pas une ville de pirates, tu vois. Ce qui paraît fun quand on pense à Europa Park, mais en vrai, ça l'est pas vraiment, tu vois. Ça s'est passé comment pour toi? Ça c'est intéressant.
Alors, c'est en fait, donc, comme toi, hein, tout le monde me déconseille d'aller là-bas. J'ai même eu un contact avec mon ambassade suisse à Manille. Il m'a dit, on vous garantit pas de vous protéger si vous allez là-bas, c'est une zone à risque et tout et tout. Et durant mon voyage, j'ai dit, mais merde, si je dois prendre un vol, ça m'embête, j'ai dit non, je vais essayer d'aller en ferry. J'ai rencontré un Français qui revenait de Malaisie, qui avait pris ce ferry en retour. J'ai dit, oh, ça doit être possible et tout. Donc du coup, je suis descendu là-bas. Il faut savoir qu'à 30 km au sud de Zamboanga, il y a une île qui s'appelle des îles Sulu. Et c'est là qu'un groupe, une filière d'Al-Qaïda qui s'appelle le groupe Abu Sayyaf, où ils kidnappent souvent des touristes juste pour la rançon, pour avoir de l'argent. Et ces gens, ben, se déplacent en bateau, donc ils sont proches de toutes ces îles, donc ils ont des antennes un peu dans toutes les îles, donc il est possible, ouais, de se faire kidnapper, je sais pas. Je crois que 2 jours avant, il y a eu un couple d'Allemands qui s'est fait kidnapper sur une île, à l'est de la Malaisie, qui faisait de la plongée. Donc le risque existe, mais après, ben encore une fois, je pense que c'était, je pense, peut-être la partie la plus risquée depuis que je suis parti, mais ben, pour moi il s'est rien passé. Et puis je pense que j'ai plus de risque d'avoir quelque chose sur la route que de cette partie du monde, je sais pas. Pour moi, ça s'est bien passé.
Je sais que Mindanao, en ensemble, hein, dans cette île-là, j'avais rencontré à Palawan. Un Américain ou un Anglais qui travaillait là, et il disait, il y a certaines parties qui sont plus dangereuses, mais à 50 kilomètres, tu risques vraiment absolument rien, donc c'est, ouais.
Ouais, le risque zéro n'existe pas, mais c'est comme partout. Hein.
Ah, mais en Suisse, on veut le risque zéro, hein. Non, c'est vrai, je me dis, je sais pas, toi, comme tu le vis personnellement, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a l'habitude quand même d'avoir une certaine stabilité, que ce soit financière aussi, pour la plupart des gens, quand même, d'avoir un pays qui est quand même hyper stable, tu vois, et tout ça. Et c'est vrai que, quand tu vas en voyage, j'ai l'impression des fois que, je crois que c'était Franck Michel, qui est anthropologue, qui me disait, pour vous, les Suisses, c'est encore pire que pour d'autres, parce que dans beaucoup de pays, c'est déjà un petit peu risqué, tu vois, où il y a des pays où il y a 25, 50% de chômage, donc le voyage, c'est pas, tu vois, ils se mettent moins en danger que quelqu'un qui vient d'un pays beaucoup plus stable, tu vois, où dès que tu pars, je sais pas.
Ouais, c'est clair, tu cours un risque, mais je pense que même en Suisse, on a des endroits dans certaines villes, je pense qu'ils sont pas non plus très fréquentables la nuit. Et si j'avais écouté toutes les personnes, je serais même pas parti de Suisse, quoi. Je serais même pas été en Italie.
Ah bah ouais, c'est scandaleux. Donc, il y a la mafia là-bas. Attention.
Ah ouais, j'ai passé à Naples, j'ai tellement entendu d'histoires et moi j'ai adoré cette ville. Je pense que si on écoute vraiment toutefois, aller faire sa propre idée soi-même.
Ouais, il faut sortir de sa zone de confort et puis. Ouais.
Et on entend toujours que des cas qui se passent, des mauvais cas, tous les bons cas, tous les milliers de touristes qui passent chaque année partout, on n'entend jamais parler, mais toujours, dès qu'il y a un enlèvement, on n'entend parler que de ça, donc
c'est
les médias font
ça.
Ça.
Bon, en Italie, remarque, moi, les gens me font pas peur, mais par contre, leur façon de conduire à certains endroits, là en vélo, tu vois, là je prendrais plus un gros 4x4, mais genre blindé, tu vois.
Ouais, alors je dirais que l'Italie, il faudrait pas aller en Centrale-Asie. Je pense que l'Italie, c'est rien à côté. En Centrale-Asie, ils sont complètement secoués. Okay. Et en plus, ils conduisent tous alcoolisés. C'est un truc de fou. L'alcoolisme, c'est un gros problème dans tous ces pays d'ex-Union soviétique. Ils conduisent super. Ils ont des voitures toutes pourries et ils conduisent super vite. Ils ont aucune idée, quoi. Donc, c'était beaucoup plus dangereux aussi là que dans l'Italie, ça allait.
De toute façon, c'est un accident, ça peut se passer aussi dans des pays où c'est beaucoup plus contrôlé. Mais en tout cas, c'est super chouette de t'entendre parler de tout ça, puis on te sent quand même passionné. T'en as encore pour combien de temps? Je sais que ça, en théorie, ça se demande pas parce que t'en sais peut-être pas grand-chose, mais tu prévois de revenir ou?
Oui, de toute façon, mais c'était une des conditions de mon voyage. J'aurais pu le faire plus vite, mais j'aurais dû le faire sur une année ou 2 ans parce que j'avais pas les réserves financières suffisantes. Et c'est vrai que j'ai managé un peu ma vie différemment et du coup c'est vrai que j'ai l'opportunité de pouvoir voyager sans limite de temps. Ça veut dire que comme au Japon, je suis resté 6 mois finalement, que c'était pas prévu, donc je peux, en fait, mon voyage est plus régulé par la durée des visas, je dirais, que par mon envie d'y rester dans chaque pays. La suite, j'ai des rêves, j'ai un rêve d'aller en Amérique du Sud, c'est sûr. Mais je vais passer d'abord par l'Alaska et redescendre toute la panaméricaine jusqu'en bas. Donc, je sais pas, il me faudra peut-être 2 ans pour faire cette route. Après, j'ai des saisons aussi que je dois gérer. Pour le moment, je gère la saison en Nouvelle-Zélande du passage à l'Alaska. Mais après, je sais pas ça, je prendrai les renseignements en temps voulu sur Amérique du Sud, si je dois atteindre une place pour avoir une meilleure saison, je sais pas, j'imagine en Bolivie ou au Pérou qui est super haut, peut-être en hiver, c'est peut-être pas non plus la période pour y aller, je sais pas vraiment encore tout, et après l'Afrique à la fin, qui dépendra des situations géopolitiques aussi, bon, ça sert à rien de regarder maintenant, parce que peut-être que dans 3 ans, ça aura sûrement changé.
Ah ben ouais.
Mais la condition avant tout sera la motivation. Si je sens que j'ai plus la motive, si je sens que j'ai plus de plaisir à voyager, je rentre. C'est une porte qui reste ouverte aussi, quoi. J'ai pas envie de voyager pour dire j'ai fait absolument infiniment tour du monde. C'est vraiment pas le point, quoi.
Je suis assez critique envers les tours du monde, normalement, mais les tours du monde, tu sais, qui se font justement en 6 mois ou en 1 année, et où, pour avoir discuté avec plusieurs voyageurs, ils voyagent tellement vite que, au bout de 6 mois, ils en ont marre. Ils ont envie de rentrer, mais ils peuvent pas, parce qu'ils ont leur billet d'avion, ils ont leurs trucs qui sont préparés, et franchement, certains ont eu des fins de voyage où vraiment, ouais, ils en avaient marre, quoi, tu vois. Et le fait de pas être limité, disons que c'est toi qui as pris les choix pour que tu sois pas limité, je pense que c'est finalement la meilleure façon de faire, quoi, parce que si t'as envie de rester à un endroit, t'y restes, si t'as envie de te barrer, tu te barres, quoi. Je trouve ça génial.
Ouais, c'est ça, et je pense que c'est la pire façon de finir. C'est comme tu dis, les gens qui sont fatigués de voyager et qui peuvent pas rentrer. Je pense que si tu voyages pour être émerveillé, tu voyages pour quelque chose de différent. Et je pense que si tu arrives à un point comme ça, j'espère rentrer avant d'arriver à ce point-là. Je suis sûr de pouvoir, donc c'est pas. Mais c'est vrai que je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver. Ouais. Et prendre le temps, c'est vrai que. Alors tout le monde peut pas le faire. Ça c'est sûr, mais après, ben si tu manages un peu ta vie, si c'est ton rêve depuis longtemps, je pense que tu peux y arriver aussi. Et c'est vrai que prendre le temps avec les gens, prendre le temps à découvrir, à rencontrer, c'est vrai que c'est vraiment super.
Eh ben, c'est cool. Comme dirait le proverbe, à cœur vaillant, rien n'impossible. Je suis pas sûr que ce soit toujours vrai, mais en tout cas, on garde espoir là-dedans. C'était vraiment cool de partager tout ça avec toi. Alors, tu l'as pas dit au début, mais tu as un blog qui a un nom assez simple à se rappeler. Tu peux nous le dire et comme ça, on pourra justement voir. Tu as des photos, tu as des vidéos, tu as un endroit où tu as une carte, justement, où on peut voir où tu es et où tu vas.
Ouais, c'est un site internet. Moi, je donne déjà l'adresse. C'est www.ptitb.net. Donc, ptitb.net. C'est un site sans prétention qui a été construit au début pour garder des news, pour donner pour ma famille et tout, mes amis. Et petit à petit, j'ai embelli. Je m'intéresse un peu à ça aussi. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de date butoir, je veux dire, toutes les semaines, je dois mettre un article ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment au fil de mes envies. Sur ce site, il y a une page blog où là, je mets les news avec différentes photos. Il y a une carte aussi de ce que j'ai fait, ce que je prévois de faire, des photos, des albums par pays. Et sur la page la première page, il y a aussi tous les contacts. J'ai une chaîne YouTube avec, je fais deux, trois petites vidéos, mais totalement amateur. Je peux pas dire que c'est un site d'information pour le voyage. J'ai pas la prétention de ça. Je fais pas un site pour ça. Mais ceux qui veulent suivre mon expérience et ceux qui ont des questions peut-être, si je suis volontiers, je réponds. S'ils ont des questions sur un voyage qu'ils veulent faire ou une place où j'ai été, que je peux les renseigner, c'est volontiers.
Ouais, notamment sur le matériel, par exemple, où t'as une liste qui est plutôt détaillée du matériel que tu utilises, justement. Ce qui est intéressant, parce que c'est toujours délicat à choisir du matériel. Alors, même si c'est pas forcément enfin, chacun a sa liste un petit peu différente, je suppose, mais ça peut déjà fournir une bonne base pour les auditeurs qui savent pas comment ça se font, parce que l'air de rien, ça demande quand même de l'organisation, tout ça.
Il y a un peu d'organisation. Il y a eu beaucoup de recherches internet sur le matériel. Je peux pas dire que j'ai tout fait juste. Ce qui est normal, je pense, tu corriges au fur et à mesure que tu progresses. Ouais, et après on fait ces expériences, mais c'est vrai que pour partir, la base, les sites internet, les gens qui ont déjà fait ça, il y a 2-3 sites qui sont vraiment performants. Je n'ai pas comme ça à citer, mais c'est facile de trouver sur internet. Il y a beaucoup de gens qui font ça actuellement, des voyages à vélo, donc non, c'est pas un truc vraiment exceptionnel.
Ouais, ben quand même, écoute, ça mérite le coup d'être suivi. Et justement, tu disais que c'est pas un blog d'information. Oui, effectivement pas, mais je trouve intéressant de suivre les gens vraiment à l'individuel, tu vois, où on a entre guillemets du vrai, si tu veux. C'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir un vrai retour d'expérience et tout ça. C'est toujours chouette de savoir qu'on a des Suisses un peu partout autour du monde.
Ouais. Il y a des plus givrés que moi. J'ai rencontré des gens qui voyageaient à pied aussi, et donc je pense que c'est peut-être l'étape d'après, je sais pas, faire des tours du monde à pied.
J'aime bien la marche à pied, mais j'ai l'impression que c'est certaines régions, ça doit être horriblement long quand même, franchement.
Ouais, je sais pas, déjà qu'un vélo, des fois, c'est long, alors j'ose pas imaginer à pied.
Hein. Ouais. Je pense que l'alternative qui me plaît le plus maintenant, c'est celle de Laurent, du vélo couché, en fait. où j'ai l'impression que de par la position et tout ça, ça a l'air pas mal. J'ai essayé le sien justement quand il était à Bâle, et je me sentirais mieux dans un vélo couché que dans un vélo comme le tien, par exemple.
Ok, je sais pas au niveau.
Mais je sais pas. Après, c'est discutable, mais.
Il y a au niveau, faut bien regarder si tu dois prendre l'avion, si c'est facile de le mettre dans l'avion, si c'est plus gros qu'un vélo normal.
À mon avis, t'oublies. Hein.
Ouais, donc ça aussi, ça peut conditionner un peu ton
voyage. Lui, jusqu'au Japon, tu vois, donc du coup, il a pas besoin de faire du voyage en avion. Après, c'est vrai que, enfin, tout est possible, mais après, c'est une question de moyens, quoi.
Il y a des gars qui font ça en monocycle aussi, j'ai vu.
En monocycle.
J'ai rencontré un Australien qui traversait de Perth à Sydney en monocycle. Non, ça existe.
C'est n'importe quoi. Je vois le mec en monocycle au milieu du bush australien. Ouais.
Ah, bah, même moi, j'ai dit, je le voyais de loin, je dis, mais c'est quoi? C'est un marcheur? Je voyais pas, et non, il va vraiment vite et tout. Non, c'est un gars en monocycle. Ok. Juste un petit sac à dos derrière lui. Pourquoi
pas? Écoute, pourquoi pas? C'est peut-être pour péter un record de quelque chose, on sait pas. Bref, en tout cas, c'était vraiment chouette de parler avec toi, vraiment très agréable. On aura peut-être, ben, du coup, comme tu voyages pendant longtemps, moi, j'aurais rien contre qu'on se reparle quand tu seras, je sais pas, à la moitié des États-Unis ou je sais pas, pour que tu nous racontes ce qui sera passé entre deux. Ça sera sûrement intéressant. Puis entre deux, on te suit sur petitb.net. C'était bien cool. Alors, chez toi, c'est le matin. Chez moi, c'est 1h du matin. Donc, on est les deux le matin, à part que moi, je vais me coucher et que toi, tu vas commencer
ta journée. Moi, je vais préparer mon repas, pour manger mon midi. Mais ouais.
Exactement. Ben, ça m'a fait très plaisir. Et puis, du coup, on se dit à la prochaine. Et puis, ben, je te souhaite... qu'on souhaite quoi? Un cycliste bon, cyclomotoriste?
Bon vent.
Bon vent est dans le bon sens, alors, du coup.
Bon vent, ça veut dire dans le bon sens, en général.
C'est vrai que sinon, ce serait mauvais vent. Mais je suis fatigué. Super, alors, à la prochaine.
Bon, bah, merci bien, Jonathan, et salutations à tous tes auditeurs.
Totalement providentiel. Je rentre à la maison à pied, je me trouve dans une rue où je vais rarement, et regardez ce que j'obtiens pour à peine $50.
Et quoi?
Ceci me paraît être un vélo à 18 vitesses de type tout-terrain. Je l'ai remarqué dans la cour d'un voisin et j'ai demandé s'il était disponible. Ils en avaient 4. Alors, j'ai fait une offre en ligne.
Oh, regarde.
$50. Ils ont accepté. Ils ont même ajouté ce cuissard de compétition jaune citron. Ils ont eu la bonté de me le passer par-dessus la clôture, ce que j'ai trouvé très sympathique.
Et encore merci à Pascal d'être venu sur VoyageCast, c'était vraiment agréable de parler avec lui. D'ailleurs, c'est possible que la semaine prochaine, je promets rien parce que je vais recommencer à travailler, etc. Mais il y a des offs de ce podcast-là qui sont plutôt intéressants, où il donne aussi son ressenti sur le voyage autour du monde, sur les petits moments qui vont peut-être un tout petit peu moins bien aussi. Et ça serait peut-être intéressant de les balancer sur VoyageCast pour ceux qui veulent aussi tenter ce genre d'aventure. Pour ce qui est de la musique qu'il y avait au début de VoyageCast, vous l'avez reconnu, c'est Bicycle de Queen. J'étais un peu obligé, c'était un petit peu cliché, mais bon, bref. Le premier extrait de vidéo, de film, c'était bien entendu La Grande Vadrouille, avec la scène du vélo qui est vraiment très classique dans l'histoire du cinéma français, en tout cas. Un bon film, bien drôle à regarder, il faut dire. Et le deuxième extrait, par contre, lui, vient d'un film un peu plus obscur qui s'appelle A Scanner Darkly, avec Keanu Reeves, qui est un film qui a été effectivement tourné, mais avec du cel shading, si je ne me trompe pas. Donc il y a un effet dessin vidéo qui est mis sur le film. C'est un film que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, et il y a pas mal de drogue dans ce film, ce qui donne ce genre de dialogue assez absurde. D'ailleurs, juste pour le plaisir, je vous ai mis l'entier de la scène du dialogue du vélo qui sera juste à la fin de ce voyage cast-là. Ça va certainement vous donner envie de le regarder. C'est un film très très spécial, hein. C'est pas un blockbuster, mais ça vaut vraiment le coup. En tout cas, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup, ce genre de film-là. Le prochain Voyage Cast a aussi été enregistré avant mes vacances, et c'est le dernier qui a été enregistré avant mes vacances. Il s'agit de reparler, encore une fois, de l'expatriation en Irlande. Mais bon, vous savez, on est européen, et l'Irlande est un pays intéressant à s'expatrier. Il y avait Julie et son copain, Julie de Podcast Science, que vous avez déjà peut-être entendu si vous écoutez ce podcast-là, et puis Xil, ou alias David, que vous avez déjà entendu aussi sur VoyageCast plusieurs fois. Il était venu nous parler de la Thaïlande et de Bangkok en particulier dans l'épisode 41 et l'épisode je sais pas, 43, 44, je me rappelle plus. En tout cas, c'était une vraie petite discussion très sympathique où
Ça parlait vraiment beaucoup de sujets différents sur l'Irlande, les points forts, les points faibles, la religion, la politique, tout ça. Des choses plutôt intéressantes qui devraient vraiment vous plaire. Et puis ensuite, ben j'en sais rien parce que j'ai pas encore enregistré. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Ah, mais on aimerait bien avoir ton retour sur ton voyage aux États-Unis, sur tout le Sud, etc. » J'ai rien enregistré pendant mon voyage, parce qu'il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué d'enregistrer quand on voyage, de faire des rendez-vous avec des gens, de se trouver un endroit sympa, où il n'y a pas beaucoup de bruit, puis on peut enregistrer pendant plus d'une heure. Et donc, ben je vais revenir, j'ai des contacts, je vais revenir en Suisse, et puis je vais pouvoir faire surtout des podcasts sur le Canada, il faut l'avouer, où là c'est très facile de trouver des Québécois qui en plus font du podcast et qui en plus connaissent bien leur pays. Pour ce qui est du sud des États-Unis, c'est vraisemblable qu'il y aura une auto-interview schizophrénique, comme vous en avez déjà entendu une fois sur VoyageCast, où je m'auto-interviewerai parce que je trouve que ça a pas tellement... Enfin, je sais pas ce qui est plus narcissique, en fait. Est-ce que c'est plus narcissique de m'interviewer moi-même ou de décrire des questions et de les faire lire à quelqu'un qui, de toute façon, ne connaît pas du tout mon voyage? Qu'est-ce qui est le plus narcissique d'inviter quelqu'un? Je sais pas. Mais en tout cas, je ferai certainement quelque chose sur le sud des États-Unis parce que je pense que c'est très très intéressant d'y aller d'un point de vue voyage, d'un point de vue quasiment anthropologique et d'un point de vue historique. Vraiment, absolument, c'est très intéressant d'y aller. Il y a vraiment des très beaux coins aussi. On y mange très gras, mais c'est tellement bon. Bref, je vais pas faire un podcast sur le sud des États-Unis aujourd'hui, mais ça paraîtra possiblement après le voyage cast sur l'Irlande. Petite note aussi perso pour tous ceux qui sont sur Patreon, je vous ai remercié au début du podcast, mais je suis actuellement depuis que j'ai commencé Patreon, en pleine réflexion sur les récompenses que vous pouvez avoir en tant que patriote, hein, si vous donnez un petit peu d'argent. Moi, je sais pas ce qui vous intéresse et je sais pas franchement ce qui m'intéresserait, parce que moi, quand je donne de l'argent, parce que je donne de l'argent pour des podcasts que j'écoute, honnêtement, j'ai rien envie d'avoir en retour. Moi, j'ai juste envie qu'ils continuent à faire leur podcast et qu'ils s'achètent du meilleur matos et qu'ils se payent, qu'ils aient de l'argent pour avoir une rencontre ou un truc comme ça, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir quelque chose de plus, parce que moi, ce que j'aime, c'est le podcast et le reste, d'avoir une newsletter, d'avoir des photos, d'avoir des trucs comme ça, ça m'intéresse absolument pas. Mais je sais pas si c'est la même chose de votre côté à vous qui écoutez VoyageCast et EnthroPodcast. Donc ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours. Ceux qui sont sur Patreon, vous allez certainement recevoir un mail d'ici peu, justement, pour qu'on puisse parler là-dessus. Et que vous donniez de l'argent ou pas, ça n'a aucune importance. Si vous avez des trucs que vous trouveriez intéressant de trouver sur VoyageCast, que ce soit en donnant de l'argent ou pas, hein, parce que c'est vrai que j'aime pas tellement avoir un traitement à deux vitesses pour les auditeurs, n'hésitez surtout pas à communiquer là-dessus, parce que c'est plutôt compliqué, je trouve, de savoir quoi faire. Je suis pas un vendeur, je suis pas un homme d'affaires. Moi, je suis un mécanicien qui fait du podcast, qui aime beaucoup le faire, qui est en préparation de pas mal de podcasts qui devraient être intéressants, surtout du point de vue d'EnthroPodcast, avec des gens qui ont confirmé leur venue pour EnthroPodcast, qui sont des gens vraiment, vraiment intéressants. Pour VoyageCast, ben, on va recommencer à reprendre des rendez-vous avec les invités. Devrait y en avoir des vraiment chouettes aussi, mais plus que ça, je sais pas vraiment quoi faire. Donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas, envoyez un mail à webmaster@voyagecast.ch. Vous pouvez aussi aller sur VoyageCast et envoyer un mail, puis on peut discuter ensemble. Moi, je reçois toutes les idées avec beaucoup de plaisir, du moment que, dans l'essentiel, ça profite au maximum de personnes, bien entendu. J'ai assez parlé, moi je vais... sortir à Montréal un petit peu, peut-être aller au cinéma pour ma dernière soirée, et puis demain faire un petit tour de Montréal avec une collègue podcasteuse que j'aurai certainement pas l'occasion de revoir avant longtemps, et puis après c'est l'avion. Youhou! D'ici le prochain voyage cast, ben, profitez de voyager. On sait jamais quand ça s'arrête. Allez, à ciao, bonsoir.
Totalement providentiel. Je rentre à la maison à pied, je me trouve dans une rue où je vais rarement, et regardez ce que j'obtiens pour à peine $50.
C'est quoi?
Ceci me paraît être un vélo à 18 vitesses de type tout-terrain. Je l'ai remarqué dans la cour d'un voisin et j'ai demandé s'il était disponible. Ils en avaient 4. Alors, J'ai fait une offre en ligne.
Oh, fais gaffe.
$50. Ils ont accepté. Ils ont même ajouté ce cuissard de compétition jaune citron. Ils ont eu la bonté de me le passer par-dessus la clôture, ce que j'ai trouvé très sympathique.
Oh, c'est dingue. Je savais pas qu'on pouvait avoir un vélo à 18 vitesses presque neuf pour $50. C'est stupéfiant ce qu'on peut avoir pour $50. Moi, je t'en donne 60 tout de suite, sans poser de questions.
Tu sais, ce vélo ressemble beaucoup à celui qu'avait la fille qui vit en face de chez moi, un vélo qu'on lui a piqué il y a un mois environ. Il est peut-être volé, ce vélo. Ils l'ont probablement chouré, tes voisins, tellement sympas.
C'est certain. Tu parles s'ils en ont quatre et qu'ils le vendent à ce prix-là.
Tu vois, tu devrais au moins le lui montrer pour qu'elle voie si c'est le sien.
Ouais, d'accord, je peux le faire.
Mais ceci est un vélo d'homme, d'accord? Alors il n'est pas à elle. C'est pas pour invalider ton intuition, mais ce n'est pas possible. Je t'en remercie.
Pourquoi tu dis que c'est un 18 vitesses alors qu'il n'en a que 9?
Hein? Quoi?
Hein? Quoi? Il y en a 6 ici et 3 à l'autre bout de la chaîne. 6 plus 3 égale 9. C'est un vélo à 9 vitesses.
Ouais, mais même un vélo à 9 vitesses pour $50, c'est encore une affaire.
D'accord, ces types m'ont dit que c'était un 18 vitesses. Je me suis fait enculer, je me suis fait... Attends.
Maintenant, j'en compte 8. 6 ici, et puis 2 à l'avant, ça fait 8.
Et tu crois qu'il est arrivé quoi à celle qui manque?
Je crois, je sais, ces escrocs de Romanichel ont sans doute dû le démonter avec des outils inappropriés et sans connaissance technique, sans aucune notion d'ingénierie inverse. Et quand ils ont voulu le remonter, ils ont paniqué, ils ont eu peur. Et ils ont laissé les 9 vitesses orphelines par terre. Elles doivent y être encore sur le sol du garage.
Allons porter secours aux vitesses orphelines, les mecs!
Je ne vois donc pas que ça fait partie de leur plan. Ils vont sûrement essayer de me les vendre au lieu de me les donner comme ils auraient dû, vu qu'elles étaient incluses dans le prix de vente d'origine. Oh mon Dieu, je me demande ce qu'ils ont pu trafiquer d'autres.
Oui, mais si on y va tous ensemble, là ils nous les rendront vite fait. Tu parles qu'ils nous les rendront, tu parles qu'ils nous les rendront. Allons-y tous en équipe,
attends,
d'accord?
Attends. Tu es sûr qu'il y a seulement 9 vitesses sur ce vélo?
8.
Oh d'accord, 8, 9, comme tu veux. Tu crois pas qu'avant d'aller jusque là-bas, de les accuser, de commencer une bagarre, on devrait d'abord bien vérifier?
Absolument d'accord, Donna. Qui est-ce qu'on connaît comme spécialiste de ce type de vélo?
Attendez! Bouge pas! Lâche-moi!
On est tous beaucoup trop impliqués dans l'histoire. Il n'y a qu'une chose qu'on puisse faire. Pour déjouer le complot odieux de ces minables petites vipères protéiformes et albinos, on va emmener ce vélo dehors et demander l'avis du premier venu. Voilà une méthode innovante. Comme ça, on aura de l'objectivité.
1, 2, 3, hold on!
À propos, je vais peut-être l'accepter, ton offre à $60.
Ah non, ça c'était pour 18 vitesses.
Oh.
Non, pour celui-là, 18 moins 10, je te donne $23.75.
Et tu es certain de ne pas t'être planté dans tes calculs?